CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Et pour commencer, on vous souhaite une bonne année. Autour de la table aujourd'hui, nous avons Monique Couteau de retour pour 2025 et tu vas nous parler du RSA nouvelle formule.
C'est ça, le RSA nouveau est arrivé.
Sera suivi de Clément Chassin qui va nous parler salade.
Oui, on va parler de salade et des légumes qu'on peut mettre dans la salade, tout ça, des légumes divers.
Ensuite, Alain de Frémont qui va nous parler agriculture.
Oui, on reprend le chemin de l'atrium et du sel pour deux pièces assez intéressantes en janvier.
Et on finira par à portée de parole avec cette fois-ci Agnès Delcourt.
Qui viendra nous raconter tous les épisodes de sa compagnie, La Filiade, les épisodes passés et ceux à venir.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, peux-tu rappeler ce qu'est le revenu de solidarité active ?
Le RSA permet aux personnes sans ressources d'avoir un minimum de revenus qui varie selon la composition du foyer. Il y a actuellement 1,8 million de bénéficiaires, ce qui représente en fait 3,65 millions de personnes, puisque ça accompagne également les familles. Le montant mensuel du RSA versé par les CAF est de 607,75 € par mois pour une personne seule et de 911,63 € pour un couple sans enfant.
On parlait de nouvelles formules, en quoi consiste la réforme et quels sont ses objectifs?
Tous les bénéficiaires du RSA vont être inscrits à France Travail. Avant, il y avait seulement 40% des allocataires du RSA qui étaient inscrits à Pôle emploi. Pour percevoir leur allocation, ils devront effectuer 15 heures à 20 heures d'activité par semaine. Le ministère du Travail précise que ces activités peuvent être diverses, obtention d'un permis de conduire, immersion en entreprise pour affirmer son projet professionnel, participation à des activités dans le secteur associatif. Chaque bénéficiaire doit donc signer un contrat d'engagement comportant un plan d'action précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Si l'allocataire n'effectue pas ses heures d'activité prévues, le versement du RSA peut être suspendu. Les objectifs affichés par le gouvernement sont triples. Mieux accompagner le retour à l'emploi et simplifier la procédure d'accès à l'allocation. À partir de mars prochain, les allocataires n'auront plus à inscrire eux-mêmes leurs ressources principales pour toucher ces aides, RSA et prime d'activité. La prime d'activité, ça concerne 4,4 millions de personnes, comme cela existe depuis 2006 pour les impôts. Mais par contre, ils devront toujours valider le formulaire pré-rempli et déclarer leurs autres ressources éventuelles, telles pensions alimentaires ou dons familiaux. L'objectif est de réduire aussi le non-recours. 34% de ceux qui pourraient prétendre au RSA n'y ont pas recours. Et en moyenne, pour l'ensemble des prestations sociales, c'est 30% des citoyens qui n'ont pas recours aux aides auxquelles ils pourraient prétendre.
Tu as parlé de trois objectifs, il en manque donc un.
Oui, le troisième est financier. La Cour des comptes estime les erreurs de versement à 5,5 milliards d'euros annuels, dont un tiers non versé à tort et deux tiers en trop, dit la CNAF. C'est pour cette raison que la Cour des comptes n'a pas validé les comptes de la CNAF pour 2022 et 2023. Elle estime que ces erreurs représentent 7,4% du montant des prestations et précise en mai 2024 qu'un quart des montants versés au titre du RSA est entaché d'erreurs. Cette réforme peut limiter les risques d'erreurs, mais aussi augmenter le montant des aides à verser. Pour 2025, la réforme est prévue à moyen constant. Et pour les années suivantes, l'estimation est impossible, compte tenu des nombreux paramètres à prendre en compte, dont les choix politiques budgétaires. C'est 1,2 million de bénéficiaires du RSA supplémentaires et de jeunes en parcours d'insertion dans les missions locales des départements qui se verront automatiquement inscrits comme demandeurs d'emploi.
Quelles sont les conséquences possibles pour les allocataires ? Et que dénoncent les associations ?
Il faut savoir que cette réforme a été expérimentée dans 49 départements pendant un an avant sa généralisation. Le bilan sur l'efficacité de ce dispositif est contrasté. Une étude publiée par le ministère du Travail en novembre dernier, qui a permis de suivre 500 participants dans 8 territoires différents, montre que si 54% des allocataires ont accédé à un emploi à un moment donné, alors sans précision du nombre d'heures d'emploi, ni de la durée de l'emploi, l'objectif de 15 à 20 heures d'activité suscite de nombreux débats. En effet, en un an, le taux de non-recours au RSA a augmenté dans ces territoires de 10,8%, tandis qu'il a diminué de 0,8% dans les autres départements. Des associations comme le Secours catholique, ATD Quart-Monde, la Fondation Abbé Pierre, la Ligue des droits de l'homme, la FSU, Fédération syndicale de l'éducation, dénoncent le risque d'accroître la précarité des ménages déjà vulnérables par l'aggravation des radiations, l'objectif du travail à tout prix et surtout à n'importe quel prix, le glissement vers le travail gratuit, éloignant les allocataires de leur projet d'insertion et portant atteinte à leur autonomie, notamment à travers l'usage d'algorithmes pour les orienter. Mais aussi, il dénonce les effets de mise en concurrence avec des emplois publics ou privés qui s'avéreraient contre-productifs en matière de création d'emplois et pourraient tirer le marché du travail vers le bas en matière de conditions de travail et de rémunération. Tous les territoires expérimentaux n'ont pas eu la même pratique. J'en parlerai dans la prochaine émission sur le chômage.
Merci beaucoup Monique. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les nouvelles règles sur le site du ministère du Travail. Et Monique, comme elle le disait, complétera donc quelques points dans la prochaine émission. C'est au tour de la chronique à table avec Clément Chassin. Jingle. À table avec Clément Chassin.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler de salade. Donc quand on parle de salade, alors ça évoque plutôt l'été, les salades de tomates, tout ça. Qu'est-ce qui me prend d'en parler en ce moment je voulais parler de salade parce que c'est quand même un repas simple et économique et qui permet de manger des légumes d'hiver. Et ouais, on peut faire des salades de saison en plein hiver.
D'hiver et hiver-est aussi.
Oui.
Allez, reine des jeux de mots.
Qu'est-ce que je disais ? Simple et économique. Alors, déjà, si vous avez des restes, ce qui arrive, on peut faire une salade avec un reste de riz, de nouilles, de lentilles, de pommes de terre. Ça fait une bonne base. On met un petit peu de salade. En ce moment, il faut profiter en hiver. Il y a plein de variétés de salades différentes. C'est aussi l'occasion de découvrir des variétés de salades. Et après, donc, ce que je voulais dire... On peut y rajouter des légumes d'hiver, crus. Par exemple, ce qui est connu, la carotte, crue, râpée, Mais on peut aussi rajouter du navet, cru, râpé, de la betterave, cru, râpé, le radis, cru, râpé. Tous ces légumes-là, on n'y pense pas forcément à les manger crus, mais on peut les manger crus. Donc râpé, c'est très rapide à préparer, et ça vous fait une salade, du coup, avec plein de choses dedans... coloré, alors surtout si vous mettez de la betterave, c'est très coloré. C'est l'occasion aussi de découvrir des variétés, parce que la betterave, on connaît la grosse betterave rouge, la concuit à l'eau, tout ça. Mais les betteraves, il y a aussi des betteraves jaunes, des betteraves zébrées, il y a plein de petites betteraves qui ont des goûts différents aussi. Donc c'est une occasion de vraiment découvrir tous ces légumes et de profiter de tous les intérêts de ces légumes, puisque quand on les mange crus, on a toutes les vitamines, les sels minéraux, tout ça, c'est très bon pour la santé en plus.
Et les endives, c'est quoi ? C'est une salade d'été, ça ? D'hiver ?
On est en plein la saison des endives.
J'adore les salades d'endives.
Les endives, c'est ce que je disais, il y a plein de variétés de salades en ce moment, il y a les endives, donc ça c'est de la variété des chicorées. Donc on a aussi les pains de sucre, donc des espèces de grosses salades pointues là. On a aussi la mâche en ce moment, on est en plein dans la saison.
Et la vinaigrette alors, tu fais quoi ? Tu proposes quoi ? Parce qu'on a tous notre vinaigrette à nous, j'ai l'impression à chaque fois.
La mienne c'est la meilleure.
Selon chez qui ? On n'a pas entendu, t'es à côté du micro.
Et la mienne c'est la meilleure.
Qu'est-ce que toi tu fais ? Moi j'ai ma petite recette.
Moi j'ai une recette de vinaigrette au miel.
Ah, j'en peux plus des vinaigrettes avec du sucre et Ah, j'aime pas.
Voilà, mais qui est très très bonne. Donc voilà, c'est ma recette à moi,
ah
c'est
oui,
la meilleure.
C'est personnel.
Voilà. Donc la recette de vinaigrette, comme tu dis, chacun a la sienne. Là-dessus, je vais pas lancer de polémique. Moi, je voulais juste dire que voilà.
La polémique de la vinaigrette.
Voilà, non. Moi, je voulais juste dire, on peut mettre des légumes divers, faut y penser. Et effectivement, ça permet d'éviter de gâcher. Voilà, quand on a des restes. Voilà, et on se fait une petite salade en hiver, ça fait un plat unique, même si...
Je laisse la parole à Monique parce qu'elle veut absolument parler de sa vinaigrette.
Non,
vas-y.
Pas du tout, non, je veux dire qu'on peut rajouter des pommes.
On peut rajouter des pommes râpées.
Tu fais exprès.
Oui, on peut rajouter des pommes râpées avec les légumes en question, c'est délicieux.
Pire, les raisins secs.
Des noix.
Des pommes, des noix, des noisettes, des graines de sésame, des épices.
Ta vinaigrette, c'est quoi? Quoi, Monique?
Ma vinaigrette, c'est deux cuillerées d'huile d'olive, une cuillerée d'huile de noisette, parce que c'est pas les mêmes
rapports. Ah oui, c'est vrai, tu mets la noisette.
Et du vinaigre de noix, voilà. et de la moutarde, bien sûr.
Voilà. Et ça fait une très bonne vinaigrette.
C'est délicieux.
Voilà. Donc voilà. Alors effectivement, c'est pour si on n'a pas l'habitude, c'est vrai que le navet ou la betterave, c'est vrai que notamment la betterave crue, ça peut avoir un certain goût quand même. C'est assez fort. Donc effectivement, c'est vrai que la pomme, ça permet d'adoucir un petit peu. Donc voilà, ça peut. Faut pas hésiter effectivement à mettre de la pomme, tout ça. Et aussi, si on la prépare à l'avance, si on prépare sa salade à l'avance. Un trait de jus de citron, ça permet d'éviter que ça s'oxyde.
Absolument.
Merci beaucoup Clément Chassin pour cette nouvelle recette, cette fois-ci d'hiver. On passe tout de suite à Art et Culture avec Alain de Frémont.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Oui, bonjour à tous, bonjour Jonathan. En cette fin d'année 2025, l'Atrium et le Sel nous offrent une plongée dans l'histoire avec Les Téméraires, le 22 janvier à l'Atrium, et demain, La Liberté, le vendredi 24 janvier au Sel de Sèvres.
Alors, qui sont ces téméraires qui donnent ce titre à la représentation?
Eh bien, il s'agit de deux artistes, Émile Zola et Georges Méliès, qui, chacun à leur façon, vont s'engager pour dénoncer l'injustice subie par Alfred Dreyfus, cet officier juif victime d'une machination judiciaire qui divisa la France et secoua la Troisième République. En plein succès littéraire et contre l'avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Depuis son studio de cinéma, Méliès, lui, s'engage à dénoncer un mensonge d'État. Malgré les menaces et soutenu par leur femme, l'un écrit un article le plus connu de l'histoire et l'autre réalise le premier film censuré au monde. Fausses rumeurs et antisémitisme n'arrêtent pas ces téméraires qui, armés de leur courage et d'un sens du devoir hors du commun, font éclater la vérité. On ne reviendra pas sur le « J'accuse » d'Émile Zola, paru à la une de l'Aurore le 13 janvier 1898, mais on connaît peu l'histoire du film que Georges Méliès réalisa à propos de cette affaire. Méliès a réalisé en 1898 ce film, intitulé « L'affaire Dreyfus », composé de 11 tableaux et d'une durée de 13 minutes. Un exploit pour l'époque. Le film prend position en soutenant le capitaine Dreyfus. La diffusion du film provoquant des émeutes, il est censuré en France. Mais il rencontra un large public en Italie et en Angleterre, et même aux États-Unis. Ce film a une place centrale dans l'histoire du cinéma, car il est considéré comme le premier film documentaire. La Pathé, concurrente de Méliès à l'époque, s'en inspira pour créer les actualités cinématographiques qui deviendront le JT avec l'avènement de la télévision. Dans une mise en scène très inventive, Charlotte Matzneff ne s'interdit pas quelques touches d'humour dans cette pièce brillante. C'est le mercredi 22 janvier à 20h45 à l'Atrium de Chaville. Et le vendredi suivant, le 24 janvier donc, c'est le Sel de Sèvres qui nous propose « Demain, la liberté » de Antoine Nouel. Le jeu de mots du titre évoque la vie du médecin en thérapie Manuel Félix Kernstein, qui parvint à convaincre Himmler, chef de la Gestapo, d'épargner la mort de 100 000 personnes en échange de massages qui le soulagent. Cette histoire véridique montre que l'humanité est capable du pire, mais aussi du meilleur. Ce duel stupéfiant est à découvrir donc le vendredi 24 janvier à 20h45 à Sèvres.
Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon, Alain de Frémont. On passe enfin à la chronique qui terminera l'émission à portée de parole avec Agnès Delcourt. À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Oui, alors Agnès, ben, rebonjour. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment s'est passé le dernier trimestre 2024 pour la compagnie La Filiade ? On s'était vu quand vous alliez jouer au Théo Théâtre en mai, Enfant Fantôme. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai. Alors, Enfant Fantôme, ça s'est très bien passé au Théo Théâtre. On a été repérés par le Festival de Paris, qui est organisé par la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur. Donc, on a joué le 19 novembre à Paris. C'était très émouvant parce qu'il y avait, des compagnies différentes chaque jour. Et nous étions la seule compagnie avec autant d'enfants. Il y avait 8 enfants au plateau et 3 adultes. Voilà, donc c'était une belle émotion. Aussi. Ce festival, organisé par la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur, est organisé donc en effet par le Comité Parisien, mais après il y a des relais en région et on peut postuler éventuellement au festival national, voire international. Donc le prochain c'est Marseille pour le national et l'international c'est Monaco. Bon, on n'en est pas encore là, on verra si on postule ou pas. C'est un peu compliqué avec une compagnie avec beaucoup d'enfants, il faut quand même qu'ils aillent à l'école, les petits. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ensuite, on a quand même le 21 septembre, on a donné une représentation d'Enfants Fantômes pour les Chavillois. Voilà. Et ensuite, on a été contacté par le festival de Sèvres, les 48 heures du sel, qui maintenant se déroule uniquement 2 fois par an. Et donc, nous jouerons le 22 mars au sel. À Sèvres, j'allais dire Chaville, voilà. Et puis la grande nouvelle, c'est notre participation au Festival d'Avignon, le OFF, hein, pas encore le VIN, mais voilà, du 7 au 16 juillet, au théâtre qui s'appelle L'Incongru, qui est en plein cœur d'Avignon, au Hall, exactement. Et c'est un petit théâtre, mais on est très très heureux de partir avec les enfants. Alors la distribution va un peu se modifier parce que certains enfants avait prévu des vacances, donc on va commencer à travailler là dès cette nouvelle année. Et en janvier, on a aussi un mois un peu chargé, parce que le 11 janvier, nous participons. Alors tout ça, c'est grâce à la fédération, toujours à la FNCTA, qui nous avait repérés, à un événement qui s'appelle la Singulière Rencontre. Cet événement se déroule une fois par an. La Fédération parisienne invite un auteur contemporain pour le faire connaître. Cette année, c'est Geneviève Soublin qui a écrit beaucoup de pièces pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc, elle sera interviewée par un journaliste et il y aura des extraits de ses spectacles. Et donc, nous allons présenter avec les enfants un extrait de Fiesta. C'est l'anniversaire d'un petit garçon de 10 ans, donc c'est très, très joyeux. Donc ça, c'est le 11 septembre et j'invite tout le monde...
Le 11 janvier.
Oui, 11 septembre. 11 janvier, excuse-moi. Et j'invite tout le monde à participer, c'est gratuit, c'est à la MP2A de Paris, sous la canopée au Hall. C'est à 19h, il faut simplement s'inscrire par internet, par le biais du site de la fédération. C'est très intéressant, c'est une rencontre très, très sympathique. Voilà, et puis le 21, voilà, donc non pas septembre, mais janvier. Alors là, j'invite les Chavillois à venir nous voir. On fait un point d'étape sur le travail de la compagnie, mais des participants aux différents cours de la compagnie. Donc, c'est à 19h, salle Mosaïque, le 21 septembre.
Janvier.
J'en recommande, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, je suis obnubilée par le
moment. Elle est là pour ça, Monique, hein, c'est les dates.
Janvier, donc. Donc, 19h, salle Mosaïque. Donc, il y aura une petite représentation par les enfants, une autre par les ados qui ont travaillé, qui ont fait une écriture au plateau, et une troisième par les adultes, où là ça décoiffe parce qu'on commence à monter Lysistrata et on s'amuse beaucoup, c'est complètement déconnant et c'est très... Donc j'invite tout le monde à venir voir. Voilà.
Merci déjà pour tout ça, ça nous fait déjà pas mal de dates de rendez-vous. Tu as évoqué la FNCTA, la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de cette fédération, un peu son organisation et surtout ses propositions?
Alors, la fédération, elle existe depuis plus de 50 ans. Maintenant, elle est organisée, donc, au départ, c'était au niveau national, mais il y a des comités régionaux. Et puis, ils ont une approche aussi internationale, puisque le festival peut aussi aller à l'international, avec d'autres compagnies, enfin, d'autres fédérations, d'autres pays. Alors, ils sont... nous, en 92, on fait partie du comité 92, mais il y a une très grande communication entre les différents comités régionaux, nationaux. Donc, on peut participer, parce que chaque région organise au moins... un festival par an, donc on peut y participer très facilement. La fédération aide à avoir éventuellement, si on a besoin de décors, voire de comédiens, on peut s'échanger des bons plans. Parce que la fédération a une véritable exigence, artistique, puisqu'elle fait régulièrement travailler aussi des professionnels, à la fois comédiens, donc ça mixe les équipes, les compagnies, amateurs avec des comédiens pros, et aussi au niveau des régies, de la régie, de la technique. Il y a souvent des professionnels qui viennent aider, donc il y a une véritable entraide et c'est très enrichissant. Et puis il y a un bon niveau artistique, il faut le dire, donc ça mérite d'être souligné. Et il y a régulièrement des événements, comme là la singulière rencontre, mais il y en a tout le temps. Donc j'invite à consulter le site de la fédération, donc au niveau national. Et puis vous pouvez après aller sur le comité du 92 ou du 78 pour voir les éventuels... événements. Et souvent il y a des pièces qui sont jouées et à des tarifs dérisoires, voire l'entrée est gratuite. Donc c'est un bon plan, voilà, pour découvrir des pièces, des auteurs qu'on connaît pas forcément, et beaucoup d'auteurs contemporains, mais pas que. Il y a aussi des auteurs classiques.
Bon, ben ça fait vraiment
c'est des bonnes idées d'ouverture.
Et donc, écoute, peut-être en petite dernière question et en projet pour toi, en dehors de tout ça, qu'y a-t-il?
Alors, j'ai toujours pas mal de projets. Après, c'est le temps qui manque un peu. Alors, avec Rima, qui est franco-libanaise, on continue à travailler parce qu'on avait donné au mois de mars dernier un petit spectacle. On voudrait l'enrichir pour pouvoir aller plus loin et offrir un spectacle d'une heure. J'aimerais bien remonter la première pièce que j'ai montée en 2020 maintenant, ou 21, je ne sais plus, Clément Selem sur Louise Michel, parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup. Et donc là, je suis en train de prospecter pour trouver des comédiens, y compris des comédiens professionnels, pour remonter cette pièce. Et puis j'ai toujours mes projets d'écriture, mais là, c'est pareil, je manque un petit peu de temps. Donc je travaille toujours sur Zola. Je vais sortir quelque chose sur Zola, c'est sûr, sur les femmes de Zola, ça c'est certain. Et puis là, cette année, c'est l'œuvre de Colette est tombée dans le domaine public. Et là, j'ai quand même déjà beaucoup avancé sur Colette. Et là, j'aimerais bien parler autant pour Zola, on va parler des femmes de Zola. Et Colette, on va faire les hommes de Colette. Bon. Et il y en a pas mal.
Bon, écoute, tu reviendras nous parler de tout ça un petit peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup.
Merci d'être venue.
Merci.
Merci beaucoup, Agnès Delcourt. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment lundi prochain, 8h. C'était Jonathan de Nuit sur Radio VCE. Merci.